J'ai le plaisir d'accueillir, arrivant des États-Unis ce matin, notre conférencière franco-italienne-américaine Giulia Sissa, qui va nous parler de plaisir et soucis, le défi des drogues. Donc je la présente, comme nous faisons toujours. Elle est née en 1954, à Mantoue, en Italie. Elle est docteure de troisième cycle de l'École des hautes études en sciences sociales. Elle a une carrière de chercheur et d'enseignant. Elle est rentrée au CNRS à partir de 1979. Elle a occupé plusieurs postes de professeur invité, par exemple professeur à l'université de Rouen, puis professeur invité à Johns Hopkins University à Baltimore, où elle enseigne régulièrement depuis 1992. Et cette année 2000, elle a été aussi directeur d'études invité à l'École des hautes études en sciences sociales. Donc elle a une carrière à la fois de chercheur et d'enseignant, chercheur, disons, et chercheur et enseignant, je dirais nomade et en déplacement. Ses spécialités, ce sont l'histoire et la philosophie du corps, du plaisir et de la différence des sexes, l'histoire de la sexualité, la philosophie politique, la religion et la mythologie antique. Je vous indique ses publications, puisqu'elles sont accessibles en français, puisqu'elle publie en français. En français, elle a publié « Le corps virginal, la virginité féminine en Grèce ancienne » chez Vrin en 1987, « La vie quotidienne des dieux grecs » en collaboration avec Marcel Détienne chez Hachette en 1989, « Le plaisir et le mal, philosophie de la drogue », c'est la raison pour laquelle je l'ai invité, chez Odile Jacob en 1997, « L'âme est un corps de femme », Paris, édition Odile Jacob 2000, et puis différentes choses apparaissent, dont notamment « Le défi sceptique », variante antique, moderne et postmoderne, apparaître aux éditions Odile Jacob. Elle a bien sûr de nombreuses autres publications, mais je m'en tiens à ce qui vous est accessible, qui est aisément accessible en langue française. Je vais lui donner la parole donc pour une cinquantaine de minutes, et puis ensuite elle répondra à vos questions. Je vous remercie.
Merci beaucoup Yves Michaud et merci à vous tous. Je vous invite à des considérations inactuelles, si j'ose dire, sur quelque chose qui est très urgent. La parole de ceux qui trouvent les mots pour dire l'expérience de la dépendance aux psychotropes, leur parole insiste. Cette expérience est, au début, un plaisir. Une satisfaction vécue comme agréable. Maintenant, que signifie agréable ? Peut-on traduire cet attribut en une phrase, par exemple ? Peut-on passer du ressenti au décrit ? Et si oui, comment cette jouissance est-elle décrite ? Ce plaisir échappe au langage, écrit Nathalie Silvestri, une accueillante du Centre médical Marmottan. Je la cite, « Le plaisir est par excellence ineffable. Il ne peut être transmissible par la parole, que ce soit celui de la drogue ou autre. » Le seul moyen de savoir, au plus intime, de quelle nature peut être le plaisir de la drogue, et plus encore celui du manque, qui est bien sûr une souffrance, c'est ce qu'il nous renvoie de notre expérience. Voilà ce que nous dit Nathalie Silvestri. La connaissance du plaisir appartiendrait donc à l'intime, à notre expérience. Là-bas, là-dedans, une telle connaissance serait destinée à rester. Enfermé, privé, impossible à transférer au dehors par un flot de paroles. Souvenir, donc, scellé dans la mémoire, seul endroit où peut advenir un renvoi de l'expérience entre soi et soi. De cette affirmation péremptoire sur la nature du plaisir, on peut dire au moins deux choses. D'abord, qu'elle rencontre une théorie philosophique de la sensation, la théorie sceptique, qui voit l'expérience vécue comme encapsulée dans la conscience de celle qui la vit et absolument incommunicable aux autres. L'opacité, l'impénétrabilité de l'esprit des autres est l'un des thèmes majeurs de l'épistémologie sceptique de Piron à Wittgenstein. Ensuite, on peut remarquer que cette théorie converge avec la théorie lacanienne de la jouissance féminine, cette jouissance autre dont elle ne se décide jamais à parler, comme si la difficulté en était insurmontable, d'où la figure emblématique de l'extase mystique, dont les sujets annoncent la couleur en disant justement que dire, c'est impossible. Expérience pré-symbolique, celle de volupté chimique, en somme, expérience condamnée à ne jamais être symbolisée, pas vraiment en fait, puisqu'une parole peut toujours périphraser l'indicible, tourner autour, broder, effleurer. Que serait la psychanalyse après tout si quelqu'un ne relevait pas le défi de l'indicible ? Que saurions-nous du ravissement mystique si nous n'avions pas tant de témoignages paradoxaux à lire ? À propos des psychotropes, avec Thomas de Quincey et ses confessions d'un mangeur d'opium, commence au XIXe siècle une tradition de récits autobiographiques, de réflexion sur soi, dans la chronique ou la remémoration des états, états d'âme et de corps, que créent ces substances. Une partie non négligeable de la poésie romantique surgit précisément de cette mise en forme verbale de la volupté. Pensons à Baudelaire. Au lieu du silence, donc, nous avons beaucoup à entendre sur la jouissance chimique. Ne soyons pas trop sceptiques. Et qu'entendons-nous ? Nous entendons des évocations, des allusions, des descriptions. Métaphores et analogies travaillent à rendre l'expérience non pas entièrement transmissible, sans doute, mais imaginable et comparable aux autres. On ne peut pas repérer tel quel le plaisir, car le langage l'expose à la dérive et à la différence, bien sûr, mais on peut lui appliquer le télescope d'Aristote, cet instrument baroque qui n'est rien d'autre que le langage, dans sa nature transitive, transportatrice, rhétorique. On peut toujours dire autrement ce pourquoi il n'y a pas de synonyme ou de traduction mot à mot. On parle par phrases qui à la fois définissent, se connectent à d'autres phrases et tout en les déformant, permettent de voir les choses. D'ailleurs, l'auteur du texte auquel je me suis référé tout à l'heure, Nathalie Silvestri, l'admet volontiers. Les plaisirs chimiques sont comme tout autre plaisir, ils mettent sur la voie d'une considération conceptuelle du plaisir et de sa nature. Le plaisir que les opiacés et les stimulants provoquent devient le plaisir et apprend une théorie générale du plaisir, ainsi que le dit William Burroughs. Une théorie, donc, dans laquelle les autres aussi, ceux qui ne consomment pas de ces substances, mais s'exposent sans doute à d'autres formes de volupté, peuvent se reconnaître. La refiguration de l'expérience toxicomaniaque nous introduit, en somme, à une phénoménologie de la jouissance dont je crois que nous pouvons tous parler et dont je crois que nous avons beaucoup à apprendre. Je vais donc parler de ce plaisir tel qu'il est mis à mot dans des témoignages autobiographiques et je mettrai en évidence pour vous ce soir ce qui me paraît être son trait distinctif, c'est-à-dire l'insouciance. Les voluptés du nonchaloir. Le plus important parmi les contenus des extases portables est à coup sûr la nonchalance. Une fois que tu es défoncé, tu te fous du reste. La cam court-circuite l'appétit sexuel. Par ailleurs, le besoin d'établir des relations même platoniques avec autrui procède de la même source, si bien que lorsque je suis accroché à l'héroïne ou à la morphine, les gens ne m'intéressent pas. Le drogué peut rester face au mur 7 heures d'affilée. Il a conscience de son environnement. Mais celui-ci est dénué de toute implication émotive et partant d'intérêt. La drogue vous soulage de tout ce qui constitue le procès de la vie en mettant hors circuit le centre moteur de la libido. Le compte goutte casse au tréfonds de cette cuisse aussi ravagée qu'une carte d'érosion des sols. Mais la malheureuse n'en a cure. Elle ne songe même pas à ôter les éclats de verre et considère l'horrible blessure avec le regard froid et impersonnel d'un boucher. Elle n'a cure de la bombe atomique, ni des punaises du matelas, ni de la multiplication du cancer, ni de la société de crédit qui vient l'exproprier de sa chair insolvable. J'ai cité William Burroughs. Et encore, Terry se sentait partir. C'était comme si elle se trouvait dans un brouillard, mais elle avait conscience de ce qui l'entourait. Lorsqu'elle remarqua combien Porky l'épiait, elle voulut se ressaisir. Mais la drogue était plus forte, ou plutôt la rendait indifférente. « Je m'en fous », conclut-elle en partant dans les vapes et en laissant sa tête retomber lentement contre sa poitrine. Après s'être injecté une partie de la drogue et avoir nettoyé son matériel, Terry s'allongea sur le lit. Elle sentait l'héroïne agir. Elle se détendit et contempla le plafond tandis que la chaleur lui inondait l'âme. C'était comme si elle partait à la dérive dans une mer d'écume. Peu après, l'écume l'enveloppait dans une brume bienfaisante et le cadre sordide qui l'entourait devint une illusion. Son univers était à présent un monde de rêves, dépourvu de peurs et agréables sens. Tant que durait la drogue qu'elle avait sur sa commode, elle planerait dans un temps infini, sans limite, sans se soucier du passé ni de l'avenir. J'ai cité Donald Goins, auteur d'un roman autobiographique intitulé « L'accro » publié par Gallimard. Et encore, j'adorais décoller, ainsi je quittais les tracas, les blessures, les soucis du quotidien, et avec la cocaïne, le voyage était toujours super. Je me plaisais dans cette vie sans soucis, en compagnie de mes semblables. On se contrefoutait des cinglés qui se démenaient à pousser le feu du bûcher des vanités en ces années 80, youpisés jusqu'à la moelle. Ceci est Rachel, un roman autobiographique intitulé « Crack, journal d'un accro ». J'ai cité donc ces passages en vrac pour en faire entendre, pour en faire résonner l'aspect répétitif, cohérent, uniforme. À l'aune de la négligence, les spécificités des différents moments dans la relation aux produits et les caractéristiques mêmes des produits semblent s'estomper. Le plaisir positif du début est déjà, en fait, sous le signe de la perte d'amour-propre, par exemple. Sa propre image, aux yeux des autres, devient insignifiante. « Je m'en fous », pense Terry, et se laisse aller. Christiane F., vit quelques semaines de joie et de sociabilité, mais dès le départ, il s'agissait déjà du soulagement des ennuis de tous les jours, dit-elle. Quant au plaisir négatif, le plaisir de la dépendance établie, il ne fait qu'accentuer la déconnexion et révéler de quelle nature était le soulagement du début. Le monde peut s'écrouler, les gens ne comptent plus s'ils ne sont pas d'une façon ou d'une autre impliqués dans le seul souci autour duquel l'existence désormais s'organise, la suétude même. L'effet du psychotrope est toujours une volupté du nonchaloir. Mais pourquoi ? Parce que le plaisir que produisent les substances chimiques en venant à la place de ces autres satisfactions qui se gagnent dans le monde permet d'éviter, de court-circuiter, dans le raccourci de l'effet immédiat sur le corps même, l'engagement précisément dans le monde. Et par engagement dans le monde, j'entends toutes ces attitudes, ces actes, ces intentions, ces désirs qui nous projettent sur la piste des plaisirs qui coûtent, que l'on paye, que l'on mérite, que l'on diffère, que l'on perd et pour lesquels on se bat. Bref, le souci. Le plaisir chimique est structurellement substitutif. Il se substitue au souci. Il le prévient, le soigne, le dissout. Trêve, aise, insouciance, les extases portables sont des états où rien n'importe. Les témoignages de toxicomanes confirment que Freud a vu juste quand il a appelé les psychotropes des briseurs de soucis. Cette dénomination est d'autant plus remarquable que son auteur, Freud, pensait à une substance que l'on pourrait associer à un intérêt aigu, sinon suraigu, surabondant, frénétique pour la vie, dans sa trépidation et son mouvement, c'est-à-dire la cocaïne. Et pourtant, sur la base de sa propre expérience et de sa théorie du plaisir, Freud attribue à la cocaïne aussi un pouvoir apaisant. Tout baigne et coule de source. Le frottement affectif inséparable de tout effort, de toute tentative, de toute activité en résulte liquidé. La cocaïne offre une existence lubrifiée, pourrait-on dire, réglée par le principe de plaisir, sans obstacle, sans entrave. C'est comme ça que Freud en parle. Or, cette interprétation de l'expérience pourrait se justifier à partir de la puissance du modèle théorique freudien, puisque jouir est par définition une décharge d'énergie psychique, une extension d'excitation, l'euphorie de la coca aussi, doit être vue comme un apaisement. Et je crois que c'est le cas pour Freud. Je reviendrai à Freud dans un instant. Mais j'ai trouvé des interprétations narcotiques, pour ainsi dire, des effets de la coca et des amphétamines dans d'autres cas. Quand leur consommation devient une activité quotidienne, pour ainsi dire, sans relâche, les amphétamines aussi détournent le temps, l'absorbent complètement dans un dévouement exclusif qui ne laisse plus aucune place à d'autres occupations ou préoccupations. Le crack de Rachel n'agit pas autrement que l'héroïne de Christiane. L'idée même de polytoxicomanie, une idée dont on parle de plus en plus aujourd'hui, invite, me semble-t-il, à s'interroger sur l'aspect interchangeable de produits chimiquement divers et dont l'indication thérapeutique serait diverse. Qu'est-ce qui rend opiacé et ecstasy attirant pour la même personne, par exemple ? Eh bien, je lance l'hypothèse que l'effet commun serait précisément cette mise à distance de l'irritation du monde, que danser des heures et des heures sur des musiques techno ou trance d'une part et planer allongé sur un tapis d'autre part ne sont pas la même expérience, certes, mais il y a entre les deux un point de contact. Se protéger d'un dehors où grouillent les ennuis, où il faut tout le temps se heurter à des obstacles et à des échecs. Je m'avance aussi jusqu'à dire que la question de la dureté et douceur des substances, drogue douce, drogue dure, dépénalisation, etc., gagnerait à être posée en ces mêmes termes. Le hashish fait problème quand il produit un état durable de luxe, calme et volupté, pour le dire avec Baudelaire, un état qui devient une diversion trop compétitive et trop préférable par rapport à d'autres activités, comme par exemple aimer et travailler. Il y a aussi ici un noyau conceptuel qui unifie le disparate des vécus les plus divers, des usages les plus idiosyncrasiques. Les produits les plus variés ont ceci en commun, l'altération de l'usage du temps dans la direction d'une atténuation, d'un soulagement, d'un relâchement. Pour proposer une notion de dépendance qui nous sorte du dilemme entre dépendance physique et dépendance psychique, entre produits et usagers, j'aimerais parler de dépendance existentielle. Entendant par là un rapport à soi dans la durée, dans les plaisirs et les jours. Temps et corps seraient ici les mots-clés, sensation et répétition. Pourquoi le mot corps ? Parce que dans la parole des consommateurs d'opiacés et de crack, les mots qui disent la jouissance évoquent précisément un bien-être sensuel, un abandon de tous les membres. Il s'agit d'une espèce de préférence hédonique très particulière. Un état d'âme qui est un état du corps, une condition qui affecte la pensée sur le mode de ceux dont on est ou on n'est pas concerné, mais en même temps qui affecte la peau, les muscles, la tête. La nonchalance est quelque chose d'indiscernablement psychosomatique. Pourquoi le mot « temps » ? Parce que l'on souhaite que cela dure. Plaisir comme désir que cela continue. Mais désir que, de préférence à toute autre activité, continue ceci, mon temps privé, déconnecté du temps de la trépidation dérangeante du monde, le temps de mon corps heureux. Or, il faut bien se le dire, cela exerce une séduction exemplaire, un charme archaïque, un attrait difficile à résister, parce que, dans notre culture et dans bien d'autres, jouir, c'est cela. Atteindre un état où la tension existentielle lâche sa prise, fût-ce un instant. La chimie expédie sans surprise et sans retard ce que nous visons de toutes sortes de façons et que nous atteignons de manière aléatoire, fatigante, éphémère. Une telle séduction, ce charme et cet attrait, je les ai trouvés, énoncés et déclinés dans bien des témoignages sur ce qu'est le plaisir des opiacés, de la cocaïne, du trac, des produits de synthèse comme l'ecstasy, des narcotiques et des anesthétiques les plus divers. Je l'ai trouvé aussi, cependant, à l'origine même de notre histoire philosophique et culturelle. En Grèce ancienne, je veux donc évoquer ici l'intuition la plus ancienne de ce lien entre jouir et oublier, jouir et se laisser aller, jouir et se laisser entraîner hors de soi, volupté et musique, jouissance et repos. Une heure après qu'il eut absorbé la teinture d'opium dans la quantité prescrite par le pharmacien, toute douleur avait disparu. Mais ce bénéfice, qui lui avait paru si grand tout à l'heure, n'était plus rien auprès des plaisirs nouveaux qui lui furent ainsi soudainement révélés. Quel enlèvement de l'esprit, quels mondes intérieurs. Était-ce la panacée, le pharmacon nepenthes pour toutes les douleurs humaines? C'est ainsi que Thomas de Quincey fête sa découverte de pouvoir de l'opium. par une allusion à un très beau passage d'un texte antique, l'Odyssée. Qu'est-ce qu'en effet que le pharmacon Nepenthès? Eh bien, c'est une drogue analgésique. Nepenthès est un dérivé de pentos, qui signifie peine, souffrance, douleur. C'est un médicament contre la souffrance et contre la colère que la belle Hélène, belle et pieuse, verse dans le vin lors d'un dîner particulièrement émouvant pour tous les convives. Nous sommes chez elle et son mari, Ménélas. Télémaque est venu leur rendre visite et pour s'inquiétir du sort de son père. Troubles, larmes, mélancolie déchirante au souvenir de tous ces héros morts en guerre. L'atmosphère du dîner est lourde, chargée de réminiscences affligeantes. Tout le monde est rivé à la pensée du passé. C'est un souci obsédant, le deuil. Mais soudain, Hélène a une idée. Faire boire une substance qui va dissiper toute cette peine, qui va la faire fondre. Une substance qui anesthétise la mémoire. Ceux qui en boivent, nous dit Homère, ne se souviennent de rien. Même pas de la mort d'un père, d'un frère, d'un être cher. Eût-on vu de ses yeux l'un de ses proches se faire tuer en bataille, eh bien rien, pas une larme. On resterait indifférent un jour entier. Le pharmacon analgésique soigne donc la douleur inséparable du soin que l'on prend des autres, du souci que l'on s'en fait. Par cette forme de pensée intéressée qu'est la mémoire. Ajouté au vin, le pharmacon Nepenthès fait tout oublier, vous rend impassible, insensible aux émotions les plus provocatoires. Il est temps de jouir, invite Hélène. Le même effet de plaisir oubli est exactement celui de la musique pour les anciens. Fille de mémoire, avec qui Zeus a fait l'amour pour 9 jours, les muses chantent et font chanter. La musique de leur voix fait en sorte que si un homme souffre d'un souci, peut-être un deuil récent, en les écoutant, eh bien, il oublie. Soudain, il ne se souvient plus des peines, des troubles, des soucis. Ça, c'est Hésiode dans sa Théogonie. Voici donc l'archétype du plaisir. Un état défini par la négative comme non-peine, oubli de la douleur, nonchalance à l'égard de ceux qui comptent le plus, la perte des êtres les plus chers pour lesquels on est dans l'obligation du deuil. Le deuil, ce soin par excellence, le mot grec qui dit deuil est le même mot qui dit précisément souci, et ce à quoi le plaisir musical et pharmaceutique vous rend indifférent. Le plaisir est le contraire du deuil comme attachement, dévouement, affection de la mémoire. Le plaisir est détachement, déliaison, négligence. Plaisir comme oubli de la mort de l'autre et sans doute de sa propre mort. Oubli de la finitude et des services qu'il faut lui rendre en y pensant. De ce plaisir, les modèles sont les dieux pour les Grecs. Immortels, ils n'ont pas de soucis à se faire, de deuil à élaborer. Ce plaisir, cette Hélène qui le sert à boire, ce sont les enfants de mémoire qui le distillent, paradoxalement. Musique et drogue, donc. Pour un oubli de soi, de ce qui vous tient attentif, occupé, préoccupé. Pour une expérience extatique de sortie, d'évasion, de distraction. Transgression des limites imparties au moins individuelles aussi. Dissolution, désengagement. Jouir, en avoir assez, déborder. Maintenant, toutes ces idées se trouvent associées à une figure majeure de la culture antique, Dionysos. Dionysos, ce dieu dont l'apparence androgyne et dont la naissance d'un dieu, Zeus, et d'une femme mortelle, Sémélé, contribue à une identité incertaine, constamment mise en doute. Un dieu qui mène la danse, une danse collective, extatique. Prenant possession surtout des femmes, Dionysos entraîne dans un état de jouissance mouvante, mouvementée. On danse au rythme saccadé et désordonné du dithyrambe, et selon la perception générale, on s'adonne à une promiscuité sexuelle débridée. Mais surtout, la passion dionysiaque dissout la certitude de l'identité individuelle. Elle dépersonnalise, elle fait oublier qui l'on est. Une substance est liée à un tel état, bien sûr, le vin. Si nous ajoutons à cela, je cite, L'extase délicieuse que la rupture du principe d'individuation fait monter du fond le plus intime de l'homme, ou même de la nature. Alors nous nous donnerons une vue de l'essence du dionysiaque, que l'analogie de l'ivresse nous rendra plus proche encore. Que ce soit sous l'influence du breuvage narcotique dont parlent dans leurs hymnes tous les hommes et les peuples primitifs, ou lors de l'approche puissance du printemps qui traverse la nature entière et la secoue de désir, s'éveillent ces émotions dionysiaques qui, à mesure qu'elles gagnent en intensité, abolissent la subjectivité jusqu'au plus total oubli de soi. Pour le chant et la danse, l'homme manifeste son appartenance à une communauté supérieure. Il a désappris, de marcher, de parler, et dansant, il est sur le point de s'envoler dans les airs. Ses gestes disent son ensorcellement, il se sent Dieu, il circule lui-même extasié, soulevé ainsi qu'il a vu dans ses rêves marcher les dieux. L'homme n'est plus artiste, il est devenu œuvre d'art. Débordement de frénésie sexuelle, mélange de volupté et cruauté, excitation fiévreuse, la musique dionysiaque révèle le pouvoir de la musique en général, c'est-à-dire le pouvoir commotionnant du son, le flot homogène de la mélancolie. La danse est un symbolisme du corps tout entier, non pas seulement des lèvres, du visage, de la parole, mais de l'ensemble des gestes qui, dans la danse, agitent tous les membres rythmiquement. Mais pour saisir cet entier déchaînement de la totalité des forces symboliques, il faut que l'homme soit déjà parvenu à ce degré de dessaisissement de soi qui cherche à s'exprimer symboliquement dans ses forces. L'extase dionysiaque, qui détruit les limites et les frontières de l'existence, contient, aussi longtemps qu'elle dure, un élément léthargique où vient s'engloutir tout ce qui a été personnellement vécu dans le passé. Cet abîme d'oubli sépare l'un de l'autre le monde de la réalité quotidienne et celui de la réalité dionysiaque. J'ai rendu l'expérience dionysiaque par les mots du philosophe qui l'a profondément comprise, Nietzsche, qui, à partir des textes antiques et les Bacchantes d'Euripide en particulier, n'a pas eu peur de voir et de reconnaître l'ambivalence extrême de volupté et cruauté, beauté et folie qui s'incarne dans la danse à corps perdu, pour ainsi dire, de l'extase dionysiaque. Je l'ai fait parce que la représentation de la culture du rêve, aux États-Unis mais en Europe aussi, associe précisément ces aspects. Danse prolongée où les corps se font œuvre d'art, instruments de musique, sensations, mouvements et dissolution des frontières qui définissent le soi par l'identité sexuelle. Plongé au tréfonds du pré-symbolique, cet abîme d'oubli de soi, comme nous dit Nietzsche, qui est le contraire du souci de soi dont la vie quotidienne se nourrit. Le problème est, évidemment, peut-on devenir et rester un Dionysos du week-end ? Comme la musique qui se coule de la bouche des muses, comme le pharmacon Nepenthès, Dionysos sépare le monde de sa réalité à lui, du monde de la vie quotidienne, par un abîme d'oubli, nous avons vu. Dans cet abîme, les Bacchantes, les hommes et les dieux, les convives de Ménélas perdent tous et toutes quelque chose. Ils perdent la capacité de reconnaître ce qui leur sont les plus proches. Que le deuil devienne indifférent signifie que ces êtres chers que sont les parents, les enfants, les frères, deviennent soudain comme des étrangers, des gens pour qui on ne pleure plus, des gens que l'on n'identifie plus comme ceux qu'ils étaient pour nous, dans le lien privilégié qui nous les attachait. La culmination des Bacchantes d'Euripide nous montre une mère dont la perception est si altérée par le dieu du vin qu'elle ne reconnaît plus son propre fils. Elle voit un lionceau sur lequel elle se jette, main nue, féroce et fière de réussir à le démembrer. Mère aveugle, Agave paye pour l'erreur de ne pas avoir reconnu Dionysos comme Dieu. Elle n'a pas Dieu maintenant pour son propre enfant. Le risque du pharmacon, du vin et de la musique est donc cet oubli-ci. Je ne sais plus qui tu es, je ne te reconnais plus, je ne sais plus ce que j'ai à faire avec toi. Cette même idée de plaisir se retrouve dans l'Œdipe roi de Sophocle. Du plaisir dans cette tragédie si noire, si tragique, eh bien oui. Et au moment le plus terrifiant, le plus douloureux, le moment où Œdipe se crève les yeux. « Pourquoi frapper tes yeux, malheureux Œdipe ?» demande le cœur. Œdipe répond que désormais, il ne pourrait plus rien voir de plaisant autour de lui. « Le monde ne lui offrira plus jamais de spectacle agréable, » dit-il, « car qui verrait-il ? » Il verrait des enfants qu'il n'aurait jamais dû voir. Il ne veut plus les voir maintenant. Il ne veut plus les reconnaître comme tels. S'il pouvait, ajoute-t-il, il se défoncerait les oreilles pour ne rien entendre du monde. Il rêve de se cloîtrer à l'intérieur de son corps, de fermer toutes les portes des sens. Seulement comme cela, la vie peut être douce, agréable pour lui, dit-il. L'aveuglement est donc une manière de se détourner, de se mettre à distance d'une réalité qui n'a plus aucune donnée, plus aucun plaisir à offrir, et de créer, en revanche, une sorte de havre isolé, protégé, où il peut y avoir de la douceur. Davantage, dehors il y a des enfants, des proches qu'il ne veut plus avoir à identifier. Œdipe cherche la douceur de ne pas devoir les voir. À la question donc, est-ce que le plaisir, tout plaisir, est une forme de déliaison ? La réponse grecque, et peut-être pas seulement grecque, est oui. Et là se situe, me semble-t-il, la difficulté de la prévention et du discours de prévention auquel nous sommes confrontés aujourd'hui de manière très pratique, très urgente. Les molécules agissent sur l'expérience du monde, altèrent ce qu'il y a de plus existentiel, avons-nous dit, le souci. Voilà pourquoi je voudrais maintenant en venir brièvement à Freud. Qui a des soucis a aussi des liqueurs. Freud place sa réflexion sur le stupéfiant sous le signe d'une nécessité humaine. Je le cite, « Telle qu'elle nous est imposée, notre vie est trop lourde. Elle nous inflige trop de peines, de déceptions, de tâches insolubles. Pour la supporter, nous ne pouvons nous passer de sédatifs. » Ce qu'il appelle des échafaudages de secours, qui sont de trois types, ou bien de fortes diversions, ou bien des satisfactions substitutives, ou bien des produits qui nous rendent insensibles. Faute de sublimation, si nous restons rivés à l'expérience empirique de notre vie, il nous faut un complément d'anesthésie. N'oublions pas que cette altération de la sensibilité est cohérente avec l'idée même de plaisir pour Freud. La jouissance se vit comme la chute brutale d'une excitation ressentie comme irritante. Tant que le désir reste inassouvi, il gêne. Jouir, c'est s'en délivrer, se débarrasser du désir. Les drogues agissent de manière analogue à une satisfaction de désir pour Freud. Si elles brisent des soucis, comme il dit, il s'agit des inquiétudes de l'insatisfaction, des affres de la déception. Elles dissolvent le souci, c'est-à-dire le désir tant qu'il insiste et n'est pas ou pas assez satisfait. Mais justement, elles le dissipent là où il se fait ressentir, elles influent sur notre organisme, en modifient le chimisme. Les soucis que les drogues étouffent dans l'œuf sont en somme les désirs qui nous relient pragmatiquement au monde dans la quête d'assouvissement en quoi consiste une vie active. Pour le dire plus clairement, les soucis, ce sont les désirs individuels, les désirs pris un par un, pas encore ou mal satisfaits à cause de la civilisation. Les psychotropes nous les font oublier. Freud nous met sur la route de la position qui devient, à mon avis, la plus honnête aujourd'hui. Les drogues dites dures, opiacées, coca, amphétamines, sont tout ce qu'il y a de plus séduisant pour les enfants du souci que nous sommes. Mais, et cela nous le savons déjà, sans attendre la révélation d'un médecin à venir, ces molécules marchent trop bien. Elles transforment le rapport au temps, remplaçant la multiplicité des appétits, envies, souhaits que nous pouvons plus ou moins satisfaire, par la singularité d'une jouissance qui se fait exclusive et progressivement inaccessible. Puisque le recours à ces substances n'a rien de spécial, mais représente la voie qui porte tout droit au but du principe de plaisir, c'est dans la gestion de ce principe que l'on trouvera une parade, sa transformation en principe de réalité. Cela signifie devenir capable de différer une jouissance, possible dans l'immédiat, au nom de l'intérêt, ne pas risquer de payer trop cher maintenant ce que l'on peut obtenir plus tard à moindre prix. C'est le ressort de l'éducation, si elle est possible. C'est évidemment une tactique anti-drogue. Si l'on pense que décider de ne pas emprunter la voie rapide vers le bien-être dépend justement du calcul des conséquences, c'est-à-dire du prix à payer. Le principe de réalité donne un sens tranchant à la notion de gestion des risques, me semble-t-il. Il en fait une stratégie de vie pour tout un chacun, y compris les jeunes exposés au charme de la chimie. Si l'on croit que des toxicomanes très dépendants peuvent accepter de se soumettre à des routines contraignantes comme utiliser des seringues neuves, on peut aussi supposer que des adolescents peuvent se laisser convaincre à jauger profit et perte. Pensons, pour nous en convaincre, à ceux de nos amis qui ne pouvaient, ou à nous-mêmes, qui ne pouvaient pas arrêter de fumer il y a 10 ans et qui ont massivement pris une telle décision plus récemment. Comment expliquer ce changement démographiquement si significatif? Le message des coûts financiers et de santé a sans doute fait son chemin, comme on le voit surtout aux États-Unis, où la cigarette exige un esprit de sacrifice certain, assurance vie et de santé plus chère, fumer en plein air à l'extérieur des bureaux et des maisons, défier les rappels constants du risque de cancer et maladies cardiovasculaires, et de plus en plus stigmates sociaux. On a intérêt à ne pas le faire. Le principe de réalité ouvre la perspective d'un pragmatisme qui exploite la passion humaine pour l'avantage propre, sans pour autant tomber dans le cynisme. Ces considérations m'amènent à conclure avec quelques idées librement associées pour une rhétorique préventive. Je crois que pour parler d'eux et pour parler à ceux qui font l'expérience des substances psychotropes et de la dépendance, je crois qu'il faut partir de l'expérience initiale, précisément, de la jouissance chimique. Les mots-clés ici sont sensation, intensité, insouciance. Reconnaître donc cette jouissance et sa nature. Je crois qu'il faut faire étinceler des plaisirs autres, mais autres comment? De quelle altérité? Quelle variation? Quelle pluralité? Il faut, je crois, ne pas avoir peur d'inclure des sensations, d'inclure l'idée de la sensation justement dans la multiplicité et variété compenserait l'intensité éphémère du flash. Je crois qu'il faut parler du plaisir et il faut parler au nom du plaisir. Il faut parler au nom d'un plaisir plus fort, plus divers, un plaisir tout compte fait, pourrait-on dire, et après tout. Un plaisir, justement, qui serait discret, c'est-à-dire qui serait construit par une séquence de désirs satisfaits. Il faudrait, me semble-t-il aussi, inclure dans ce langage et dans cette rhétorique l'amour. Il faut inclure l'amour dans la gamme de l'agréable alternatif. En effet, la richesse et l'expérience amoureuse, dans tous ces registres, permet d'associer la tendresse et le rapport à l'autre avec l'égoïsme de la volupté propre. N'oublions pas que dans la séquence des méthodes pour gérer la difficulté de vivre, Freud met d'un côté à un extrême les psychotropes qui modifient notre sensibilité in situ, dans le cerveau même, dans le corps même, et d'autre part, à l'autre bout du continuum de possibilités, il met l'amour, qui est justement l'expérience anti-drogue par excellence, puisque l'amour, c'est cette projection dans l'autre, ces privilèges qu'on donne à l'autre, ce souci extrême et même excessif de l'autre qui fait que notre plaisir dépend de quelqu'un d'autre, ce qui fait aussi la fragilité de l'expérience amoureuse. Mais la fragilité de l'expérience amoureuse a cette caractéristique précisément d'être complètement polarisée sur l'autre. Et par expérience amoureuse, surtout dans le contexte de la psychanalyse, évidemment, je ne parle pas nécessairement uniquement du désir sexuel qui a d'autres stratégies pour Freud. Je crois, pour finir, qu'il faudrait trouver des mots pour dire, lorsqu'il faut le dire, pour dire que se droguer devrait apparaître comme un investissement, comme un profit, et pas comme un renoncement. Et je crois qu'il faudrait faire voir le moment de défiguration de l'expérience. En suivant un principe élémentaire de la rhétorique, que l'histoire de la rhétorique nous a enseigné depuis les techniques même pré-aristotéliciennes et surtout aristotéliciennes, eh bien, en suivant un principe élémentaire de la rhétorique, il faudrait aller chercher les interlocuteurs là où ils se trouvent, psychologiquement et culturellement. Donc, il faudrait partir de prémices que l'on suppose être les leurs et conduire ensuite l'argument dans la direction que l'on souhaite. Donc, je crois qu'il faut avoir le courage de parler du plaisir quand on parle de toxicomanie, surtout aux toxicomanes et aux jeunes à risque. Il faudrait trouver les mots pour vendre aux gens, en effet, leurs endorphines, leurs propres amphétamines, c'est-à-dire toute cette chimie qui nous appartient, qui est la nôtre et qui est déjà à l'œuvre dans notre cerveau et dans notre tissu. Autrement dit, il faudrait être capable d'inviter à réfléchir sur les ressources endogènes de jouissance, sur la capacité hédonique de chacun. Une sorte de connais-toi toi-même dans la chimie et la biologie du plaisir. Merci.
Je voudrais faire une constatation. Quand l'enfant est à l'école maternelle, un de ses moyens de connaissance, ce sont les sensations. Or, à partir de l'école primaire, on n'apprend plus par les sensations. On n'apprend plus du tout. On apprend. La main ne sert plus qu'à prendre, l'œil à regarder le tableau et l'oreille à écouter le maître. Or, il me semble que si on continuait à privilégier la connaissance par les sensations, on développerait chez tous les enfants une richesse interne très très forte. Voir un petit enfant découvrir l'écorce d'un arbre rugueuse, toutes les sensations qu'il peut en retirer, c'est une richesse, c'est une connaissance. Or, il me semble que l'éducation telle qu'elle est faite en général devient trop conceptuelle et plus assez sensuelle ou tout au moins ne fait pas la part assez belle à la sensation. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je peux répondre. Oui, je suis d'accord entièrement. Je crois que nous avons tous besoin d'une éducation sentimentale et nous avons aussi besoin d'une éducation hédonique, d'une certaine façon, d'une sorte de raffinement dans la mise à mot de l'expérience, dans le temps pris à savourer l'expérience. Et je trouve d'autant plus intéressant ceci en France, parce que la France est une culture, en effet, qui fait une place extraordinaire au plaisir dans l'espace de la sociabilité, de la convivialité, de la cuisine. Donc, je crois que c'est une des cultures les plus hédonistes du monde, en ce sens. Mais vous me dites que ce n'est pas assez, et c'est vrai. C'est vrai, ce n'est pas assez, et c'est un peu... Je pense le grand souci de l'éducation, c'est la raison et l'intelligence. Et c'est ça qu'il faut développer, la capacité de comprendre. Mais de plus en plus, ce que, d'une part, l'histoire de la philosophie nous apprend, mais aussi la recherche cognitive nous apprend, c'est qu'il y a ce qu'on appelle maintenant, de manière un peu plate, une intelligence émotionnelle, mais aussi une intelligence qui doit effectivement être une écoute du corps, de la sensation et de cette espèce de tout inséparable qu'est l'être humain, corps et ce que le corps produit, parce que nous sommes toujours en train de parler du corps quand nous parlons des sensations. Donc, oui, bien sûr.
Monsieur, allez-y.
Votre présentation est tout à fait intéressante. Enfin, je ne partage pas l'idée que le recours à la chimie permet d'arriver à un corps œuvre d'art. C'est quand même plutôt le contraire. Et un esprit vers la défense, c'est un petit peu le contraire. Et c'est ça que l'on constate dans les hôpitaux, où de plus en plus de jeunes arrivent détruits, psychiquement d'abord, surtout psychiquement et un peu aussi physiquement. Alors vous nous avez donné des pistes et c'est surtout là-dessus que je voudrais vous relancer. Vous avez juste simplement évoqué qu'il faudrait apprendre à différer une jouissance, mettre une séquence dans les jouissances. Vous avez juste évoqué le mot sublimation dont Freud n'a pratiquement pas parlé. Tout se passe comme si la référence à l'Antiquité grecque était un échec et qu'il y aurait peut-être d'autres références à inventer. Et puisque vous avez beaucoup insisté sur le plaisir, en fait, il dépend de l'autre. Et les gens qui se droguent sont d'abord déçus par le plaisir de l'amour. Alors, quelle piste, comment pourriez-vous approfondir un petit peu plus ces petites pistes? Vous avez parlé d'étincelles, effectivement, l'étincelle, ça passe vite. Peut-être que vous pourriez en parler plus.
Quel défi. D'abord, le corps œuvre d'art. Oui, bien sûr, ça, c'est une des images nietzschéennes de la danse que j'ai trouvée très suggestive pour cette expérience de mouvement comme confusion, fusion avec la musique elle-même. Donc, c'est une manière un peu extrême, mais je pensais que de manière, comment dire, anachronique mais intéressante, ces mots de Nietzsche qui parlent de la possession dionysiaque rendaient de manière pertinente l'expérience de ces raves où on danse et où l'extasie permet justement cette sorte d'endurance, d'endurance indéfinie, disons. Mais évidemment, la destruction de soi est d'une certaine façon pour moi le point de départ. Vous me donnez aussi l'occasion de dire que ce que je présente ici est une sorte de prolongement de réflexion à partir de ce livre, donc Le plaisir et le mal, dans lequel je développe beaucoup ce à quoi vous m'invitez ce soir. Oui, en un sens, ce que j'entends dans votre question, c'est, mais évidemment, le principe de réalité serait la solution, différer le plaisir, le calcul hédoniste auquel la tradition de l'utilitarisme depuis Épicure nous invite, rationaliser sa vie, ses choix, mais tout ça n'est pas facile. Oui, c'est évidemment ça le problème. Comment faire partager ce choix rationnel? Aux États-Unis maintenant, cette théorie du choix rationnel est très, très, très importante en sciences politiques, par exemple, mais aussi pour parler de l'expérience émotionnelle et en général de l'éthique ou de la bioéthique. Et donc, cette théorie du choix rationnel est une théorie qui met au centre ce que Freud appelait principe de réalité, c'est-à-dire l'être humain est capable de soupeser différentes formes de plaisir, davantage d'intérêt, de choisir le meilleur. Mais évidemment, tout le problème est que dans certaines situations, le plaisir immédiat est de manière écrasante préférable au plaisir différé. Comment gérer ça? Quand on voit la manière dont ces philosophes analytiques et très behavioristes traitent la question, c'est descriptif et on ne voit pas comment justement on pourrait suggérer une sorte de stratégie publicitaire en un sens qui ferait que le plaisir différé serait plus désirable que le plaisir immédiat. Mais c'est autour de ça, je crois, que de plus en plus aujourd'hui le débat, surtout aux États-Unis, se cristallise, cette question du plaisir différé. Maintenant, alors vous me dites, qu'est-ce que vous faites avec ça? Peut-être la réponse est avoir le courage de parler de ce plaisir. Est-ce que c'est quelque chose, d'après tout, de banal, qui est déjà là? Une des expériences très, très surprenantes et très intéressantes que j'ai faites après donc, le plaisir et le mal, c'est que j'ai été invitée à participer à l'élaboration d'un projet auprès de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, qui devait présenter le thème français pour une semaine d'intervention, donc européenne. Et le thème français, pour finir, est devenu le plaisir. C'est-à-dire que ce groupe, cette équipe donc, de représentants de différents ministères, qui devait, de manière très pratique, trouver une stratégie rhétorique, une stratégie de communication pour une semaine de prévention des drogues, qui impliquait toutes sortes de projets dans toute la France, eh bien, c'est devenu le plaisir. Et ce qui était intéressant pour moi, c'était de participer à ces conversations donc, préparatoires, mais aussi de voir combien le fait de parler du plaisir, de le reconnaître, était en soi une espèce de pas audacieux. Parce qu'évidemment, quand on parle de plaisir dans un contexte éducatif, on a peur de faire de la publicité. C'est très intéressant ce que vous disiez à propos de la publicité. La drogue est la marchandise par excellence, pas parce que simplement nous vivons dans une société de consommation et donc c'est une marchandise parmi les autres et comme les autres. C'est le contraire. C'est parce que c'est la marchandise dont tout le monde rêverait quand on a à vendre des choses. Parce que c'est la marchandise qui est désirable, tellement désirable elle-même qu'elle peut devenir un modèle de désirabilité pour autre chose, mais qui n'a pas besoin justement de publicité. Donc, mon étincelle, ce serait de dire n'ayons pas peur de parler de ce plaisir, parce que sinon on parle un langage complètement déconnecté. Quand on lit ou quand on parle avec des gens qui font l'expérience des drogues, c'est la première chose qu'ils disent, et ils ne parlent pratiquement que de ça et de comment le plaisir se transforme. Donc, peut-être c'est de ce côté-là que j'irai.
J'ai un petit peu de mal à poser la question, mais je m'interroge sur l'utilité de convoquer la notion de souci, le concept philosophique de souci, pour penser la drogue. Dans la mesure où, par exemple, le souci peut très bien se solutionner par un autre concept que Pascal a développé au XVIIe siècle, c'est le divertissement. Donc ce qui serait intéressant, c'est de savoir en quoi cette référence philosophique au souci n'est pas simplement rhétorique ou illustrative, mais herméneutique, c'est-à-dire qu'elle propose, au fond, une pratique par rapport à la drogue. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
C'est-à-dire
oui, oui.
Qu'au fond, on peut, toujours dans un discours sur un fait social, convoquer des philosophes, mais de façon purement illustrative. Or, la véritable philosophie, quand même, consiste à poser des concepts qui soient opérationnels et qui apportent du nouveau. Donc, si vous voulez, à propos du souci, je me demande s'il est suffisant pour penser le recours spécifique à la drogue par rapport à d'autres formes de divertissement dont se plaignait Pascal au niveau métaphysique, mais qu'on peut retrouver aussi aujourd'hui dans les pratiques courantes, hein, qui peuvent être effectivement la danse, qui peuvent être la musique forte, qui peuvent être le refuge dans un travail intellectuel et d'autres pratiques. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, oui, j'espère, mais... La raison pourquoi? Eh bien, parce que c'est un mot clé que j'ai trouvé donc dans ces textes que j'ai commencé à lire. Pour tout vous dire, j'ai commencé à travailler sur ces questions parce que j'avais été frappée par l'analogie de langage et de concept que je voyais dans Platon, dans la théorie platonicienne du désir et du plaisir, et puis dans les textes de William Burroughs, d'une part, et puis dans Thomas de Quincey, et chez Épicure. Comment, au fond, la drogue donne l'occasion à une série de gens de s'interroger sur qu'est-ce que c'est le plaisir et de formuler une sorte de conclusion de leur expérience, que vous pouvez appeler une pensée, une théorie, un bricolage intellectuel, disons, ou une réflexion. Donc, j'étais vraiment partie sur ce point qui me paraissait essentiel, qui était l'insatiabilité. Insatiabilité du désir, plaisir impossible, et c'était ça qui me paraissait le pivot. Et puis, je me suis rendu compte en lisant ces textes de plus en plus qu'il y avait ce mot qui ressortait tout le temps. Il y avait cet argument qui revenait de manière insistante et qui était, après tout, ce qui passe inaperçu parce que c'est tellement banal, n'est-ce pas, qu'on boit pour oublier, c'est que les tracasseries s'estompent, c'est qu'on s'en fout. Et j'ai commencé à suivre au ras du texte ce thème du s'en foutre. Dans Christian F., par exemple, il y a ce fil qui est d'une certaine façon le calendrier, la transformation de l'expérience. C'est justement comment elle découvre que ce qu'elle appelle les emmerdements peuvent être mis en sourdine. Et donc, voilà, je me suis dit, le mot est là, il est à la surface du texte, c'est de ces mots qui sont en un sens rendus opaques par leur banalité, mais il y a quelque chose qu'il faut au contraire souligner, comme ça, mettre en relief. De là est commencé mon hypothèse qu'il y avait quelque chose à écouter, il y avait quelque chose à entendre. Et bien sûr, quand on va voir dans la tradition philosophique, on voit qu'autour de la notion de souci s'articule beaucoup de la philosophie hellénistique de la vie et du bonheur. Par exemple, la philosophie épicurienne, dont le concept central est celui d'ataraxie. Ataraxie signifie justement, simplement, être insouciant, précisément. Alors, est-ce que ce rapprochement est rhétorique ? Oui et non. C'est-à-dire que pour moi, ce rapprochement, s'il peut avoir un sens, c'est de mettre en perspective quelque chose comme la toxicomanie qui peut apparaître un phénomène ponctuel, récent, lié à des situations sociales particulières, lié à des situations psychologiques particulières. Voilà. Ce qui est intéressant, à mon avis, c'est de mettre en perspective cela dans une histoire qui est l'histoire du souci et du plaisir, où, à mon avis, il a sa place. Pourquoi ? Parce que cette mise en perspective porte des mots nouveaux, me semble-t-il, porte une, non pas une banalisation, mais une contextualisation. Et je n'ai pas peur du fait que, bien sûr, et contre le souci, on peut choisir des remèdes différents. Bien sûr, le divertissement, mais bien sûr, le loisir, bien sûr, le week-end, bien sûr, toutes les formes de plaisir et de sensation. Mais le fait de dire que le plaisir des drogues appartient à une catégorie plus étendue ne veut pas dire que ce n'est pas pertinent de l'inclure dans cette catégorie. Alors, à l'intérieur de la catégorie, qu'est-ce qui fait la spécificité des drogues ? Eh bien, justement, la puissance de la molécule. Parce que tout le monde, et en particulier ceux qui écrivent et parlent de leur expérience, sont comme à la recherche de la drogue idéale. Que serait la drogue idéale ? La drogue idéale serait un produit qui vous donne justement le divertissement, qui vous donne cette mise à distance, qui vous donne ce qu'on appelle du relax, c'est-à-dire c'est ce que nous faisons tous les jours à certains moments de la journée quand nous nous abandonnons et nous voulons mettre à distance nos soucis et nos préoccupations. Bien sûr, on le fait tout le temps, on se détend, littéralement, le corps se détend. Mais quelle est la différence entre cela et un opiacé ? Eh bien, c'est que la puissance d'un opiacé est telle que d'une part, l'intensité de la détente est beaucoup plus forte que l'intensité d'un verre de Bordeaux, mais aussi le processus chimique et l'altération de l'équilibre des récepteurs est telle que ça va beaucoup plus vite vers un état de dépendance. Donc, c'est pourquoi, à mon avis, il faut pouvoir conjuguer une sorte de matérialisme de la chimie de ces substances et de ce qu'elles font dans le cerveau, de ce qu'elles font dans le corps, et d'autre part aussi ne pas oublier ce langage et cette histoire de réflexion conceptuelle qui fait que, voilà, comme vous dites, il n'y a pas que les drogues, il y a le divertissement comme réponse au souci. Mais les drogues sont, comme dit Freud, des briseurs de soucis par excellence parce qu'elles ont cet effet immédiat et de bricolage. Vous le faites sur vous-même, vous n'avez pas besoin de passer à travers d'autres, justement. C'est une espèce d'autosuffisance qui vous est proposée, ce que, justement, tout ce vocabulaire, Thomas de Quincey les appelle les extases portables. C'est portable, vous pouvez le faire. Donc, je suis bien d'accord que c'est un divertissement, bien sûr, ça appartient à cette catégorie du divertissement, mais avec la puissance chimique en plus.
La vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille, il faut se battre tous les jours.
C'est exactement pourquoi, à mon avis, il faut voir les psychotropes, comme on dit de manière assez euphémistique aujourd'hui, comme des produits qui, si on arrive à des niveaux de dépendance, parce qu'évidemment, tout le monde aujourd'hui parle de ces formes récréationnelles, du fait que vous pouvez vivre avec. Je ne vais pas entrer là-dedans, en tout cas pas maintenant. Mais quand la dépendance est établie, bien sûr, la vie est détruite. Oui, c'est pourquoi je crois qu'il est très important de reconnaître comment une expérience se transforme. Mais je crois que, si j'entends en un sens le sens de votre question, pourquoi ne pas parler de la destruction? Pourquoi parler du plaisir? Eh bien, je pense qu'il est très important de parler du plaisir, parce que sinon, on ne comprend pas d'où vient la destruction. La destruction ne vient pas d'un choix qui est conscient, délibéré, de se détruire. Vous lisez ces textes qui sont très beaux, très poignants et aussi très brutaux. Ils vous disent, qu'est-ce qui fait qu'on commence? On commence parce qu'on veut jouir. On commence parce que c'est beau. On continue parce qu'on veut retrouver cette espèce d'expérience première qui a été très belle. Ça, je veux dire, je n'ai pas trouvé un seul exemple de réflexion autobiographique qui ne disent pas que justement c'est ça le charme, c'est cette nostalgie de ce plaisir qui la première fois était si beau et qui peut être beau aussi après, mais évidemment on se détruit, je suis bien d'accord, mais je dis simplement que si dans une perspective de prévention, de paroles intéressantes et de paroles pragmatiques, on ne part pas par de la reconnaissance de ce plaisir, on ne pourra jamais parler aux toxicomanes, on ne pourra jamais parler aux enfants à qui on veut expliquer pourquoi ce n'est pas une bonne idée. À mon avis, si vous voulez, c'est comme si vous fassiez une éducation sexuelle d'adolescents en disant que le sexe, c'est seulement pour faire des enfants, et vous n'aviez pas le courage de dire que ça fait aussi plaisir. C'est comme si vous laissiez le plaisir à d'autres. Et tandis que ceux qui s'occupent pédagogiquement justement de la toxicomanie parlent très peu du plaisir, si vous allez voir ce que la culture populaire, musicale, justement, ou d'information interne dans les centres d'accueil, par exemple, où il y a une espèce de culture de toxicomanes qui vivent avec leur toxicomanie, en parlent, écrivent, etc. Eh bien, quand eux, ils parlent de ce qu'ils font, le plaisir est la chose évidente, ça crève les yeux, ils ne parlent que de ça. Mais si, d'une part, il y a les usagers qui parlent uniquement de plaisir, et d'autre part, il y a le reste du monde terrifié, parce que si on parle de plaisir, on n'est pas en train de parler de la destruction. Je pense que ces paroles risquent d'être des flots d'eau salée, d'eau douce, qui n'entrent pas en dialogue.
Bien, je crois qu'on va en rester là. On vous remercie beaucoup, Julia Cissa.
Merci à vous.